Merci beaucoup. Le psychologue Étienne Lavoie fait face à 14 chefs d'accusation de crimes sexuels. L'homme a comparu brièvement hier à Sherbrooke au palais de justice. Et là, Monique, on parle donc d'un psychologue qui a fait des victimes en passant par son travail. Il y a au moins 3 victimes et possiblement d'autres.
Absolument. Et on parle ici de 14 graves chefs d'accusation. Ça va de proxénétisme, agression sexuelle armée, publicité pour services sexuels, distribution d'images intimes sans consentement, menace de mort, voie de fait. On va se le dire, ce gars-là est à milieu du profil type du pimp qu'on a l'habitude de voir. C'est d'autant plus troublant parce qu'il traitait des clients dépendants à l'alcool et aux drogues et dans son propre champ d'expertise, les abus sexuels. Et voici qu'on lui reproche d'avoir contribué à rendre au moins 3 femmes accros au crack pour ensuite les forcer à se prostituer et les agresser au passage dans son cabinet de surcroît. Ça se serait passé entre février 2018 et janvier 2019 et publiait des annonces sur Internet pour vendre les services sexuels de ses victimes. Donc, utilisait ses habiletés professionnelles, de ce qu'on en comprend, pour exploiter sexuellement ces femmes-là. Et je termine en vous disant que la date du début de ses activités de proxénète coïncide avec sa sortie de prison l'an passé. Parce que oui, cet homme-là a des antécédents judiciaires, entre autres en matière de stupéfiants, de vols, de menaces. Il avait écopé de 26 jours de prison à purger les fins de semaine en février 2018.
OK. J'en parle avec la docteure Christine Groux, qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Docteur Groux, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Je comprends, là, juste pour comprendre ça, sur, on dit, dans un ordre chronologique, M. Lavoie a été condamné à la prison. Il a purgé sa peine. Quand il a repris sa pratique, il était supervisé.
Oui, ben en fait, il faut comprendre là, que M. Lavoie, pour nous, c'est un dossier en deux temps. L'incarcération, c'est-à-dire que le dossier qu'on a depuis hier là, est très, très, très différent.
Non, mais attendez. On va juste reculer un peu. Là. Je vais vous parler du premier dossier. Là. Quand il a fait ces histoires de menaces puis tout ça, là, quand il a repris sa pratique, il était supervisé.
Oui, alors c'est ça. On l'a rencontré en novembre dernier et on a eu à prendre une décision par rapport à sa pratique. On a eu à regarder si les infractions étaient en lien avec sa pratique. Au moment où on a rencontré ce monsieur-là, toutes les accusations, puis il a fallu qu'il vienne s'expliquer là devant nous, ces accusations étaient en lien avec sa consommation. OK? Et au moment où on l'a vu, il était complètement abstinent, c'est-à-dire qu'il ne consommait pas. Il avait pris lui-même des moyens pour prévenir les rechutes, puis il avait identifié les facteurs de risque. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a demandé de prendre, on l'a contraint, en fait, à un engagement. Et cet engagement-là était extrêmement restrictif. Et c'est là où on a exigé une supervision hebdomadaire, un superviseur qu'on choisit nous-mêmes et non pas qui est son choix, un superviseur, bien sûr, qui fait rapport à l'ordre des psychologues. Et on l'a contraint aussi à restreindre sa clientèle, c'est-à-dire que monsieur ne pouvait pas offrir des services à certains types de clientèle, dont la clientèle toxicomane. Et il y avait un ensemble de mesures qui ont été prises pour s'assurer de sa sobriété puis de s'assurer de la sécurité de la pratique. Okay. Donc ça, c'est le tableau qu'on avait au mois de novembre.
OK, parfait. Le superviseur, c'était quoi? Une rencontre par semaine?
C'était une supervision hebdomadaire, oui.
Est-ce que au-delà de la rencontre, il y avait d'autres moyens pour le superviseur de voir quelle était sa pratique réelle?
Il y avait d'autres moyens d'encadrement qui étaient pris avec monsieur.
Comme quoi?
Qui sont confidentiels. Ben écoutez, il y a des éléments qui demeurent confidentiels, mais il y avait vraiment d'autres moyens d'encadrement qui étaient pris. Croyez-moi, là, c'était même surprenant de voir un tel engagement. C'était extrêmement restrictif. C'était assez contraignant. Et il y avait un suivi qui était fait aussi là par l'ordre des psychologues. C'est quelqu'un qu'on suivait de près pour s'assurer qu'il respectait bien toutes les mesures de l'engagement.
Est-ce qu'il a perdu son droit de pratique pendant un certain temps?
Ben pas depuis novembre dernier. Et ça, c'est la décision.
Non, mais la question que je vous pose, Madame Groux, là, je veux savoir, est-ce qu'il y a des antécédents? Est-ce que ce psychologue-là a déjà perdu son droit de pratique? Est-ce qu'on a déjà suspendu son droit de pratique?
On n'a jamais suspendu son droit de pratique, puis il faut comprendre que le droit de pratique, il l'avait depuis 2 ans. C'est pas quelqu'un qui est membre de l'ordre depuis très longtemps, hein?
Non, mais c'est correct, mais vous me dites que ça, il n'y a jamais eu de suspension. OK, pas de problème, on continue. Pendant toute cette période de supervision, visiblement, d'après les accusations, il était en contact avec des toxicomanes, il a été en contact avec des femmes, il a donc pu, selon les 14 chefs d'accusation, poser des gestes graves. Ce que vous me dites, c'est que jamais l'ordre ou le superviseur était au courant de ça.
Absolument pas. Puis vous comprenez, M. Arcan, que si on avait été au courant de ça, si on avait eu le tableau qu'on a là depuis 24 heures, c'est évident que la conduite aurait été complètement différente parce que là ce matin, là et depuis hier, c'est dans les mains du syndic. Puis le syndic, quand il y a une poursuite qui est intentée contre quelqu'un, puis c'est une infraction qui est punissable de 5 ans d'emprisonnement ou plus, le syndic, là, il a le pouvoir immédiatement d'aller devant le conseil de discipline, qui est le tribunal indépendant du système professionnel qui donne les sanctions, puis il peut aller requérir tout de suite une suspension puis une limitation provisoire.
OK, mais alors, ça, là, Mme Groud, il y a un bout que j'ai la misère à comprendre. Là, vous me dites qu'on a des engagements, que c'est serré, puis qu'on a un superviseur qui le rencontre pendant... Et personne n'a remarqué, constaté qu'il y avait, entre autres, qui violait des engagements. Vous me dites, il ne devait pas être en présence de toxicomanes ou de gens qui ont des dépendances. Visiblement, on verra au procès, mais il l'a fait. Ça veut dire que votre super superviseur puis vos super engagements, là, il vous a passé ça dans la brume dans le toupette?
Ben, ça veut dire qu'effectivement, tous les mécanismes d'encadrement qu'on met, effectivement, reposent sur la bonne foi de l'individu. Cela dit, si on revire la question à l'envers, puis qu'on se reporte au mois de novembre l'année dernière, qu'on le suspend là, immédiatement, c'est-à-dire que du jour au lendemain, si on avait ce pouvoir-là, là, si tant est qu'on ait pensé que le système professionnel peut fonctionner comme ça, parce qu'encore faut-il que le syndic fasse sa preuve. Mais si on le radie ou on le limite ou on le suspend, vous comprenez que le lendemain matin, là, on a un individu qui peut s'appeler psycho-intervenant ou psycho-n'importe quoi. Il ne peut plus porter le titre de psychologue. Il peut continuer à recevoir des gens, puis il n'y a plus personne qui le surveille. Il n'y a plus personne qui a un œil dessus.
Madame Groux, sincèrement, là, ça, ce n'est pas votre meilleur argument. Parce que dites-moi que tous les capotés psychologues, on va les garder d'un coup qui partirait un cabinet fantôme. C'est pas sérieux, ça.
En fait, c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que des fois, on est dans un contexte où on va fonctionner avec les leviers qu'on a, on va fonctionner avec la preuve qu'on a, on va fonctionner avec les informations qu'on a, et on va faire au mieux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On va faire au mieux pour la protection du public. Puis je pense, Monsieur Arcan.
Mais je vais vous poser une dernière question parce que le temps file un petit peu là. Son avocat va demander sa libération, et son avocat a expliqué que son client souhaite reprendre sa pratique dans l'attente des procédures. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Toujours, évidemment, dans l'optique de la protection du public.
Vous comprenez que, pour nous, là, le tableau, le comportement ce matin est complètement inacceptable. Et là, c'est dans les mains du syndic. Le syndic, lui, là, tout ce qu'il fait ce matin, c'est qu'il attend de voir les conditions de libération. Puis quand il va avoir les conditions de libération, il va procéder, puis il va faire le nécessaire. Donc, il va utiliser les pouvoirs qu'il a et il va décider s'il va justement tout de suite en urgence devant le conseil de discipline pour demander une limitation ou une suspension. Et c'est ce qu'il va faire. Puis je voudrais quand même mentionner, M. Arcan...
Attendez, juste comprendre une affaire. Avez-vous dit une limitation?
Oui, c'est-à-dire qu'il peut le suspendre, il peut limiter. Le syndic, là, il y a vraiment...
Pourriez-vous préciser ce que vous voulez dire par limiter?
Dans certains cas... Ça peut être une limitation d'exercice ou une limitation du droit de pratique. Puis dans d'autres cas, puis ce que je vous dis, c'est que là, ce matin, on est devant un cas où les faits allégués sont vraiment graves. Bien, ça peut être une suspension ou une radiation provisoire. Alors, c'est ça les pouvoirs qu'il a.
Ou encore limiter sa pratique.
Moi, je vous donne l'éventail de choses.
C'est ça que je vous dis. Il peut limiter sa pratique, il peut l'interdire de pratiquer provisoirement. Mais il peut aussi limiter.
Absolument.
OK.
Puis honnêtement, là, dans le cas qu'on a ce matin, vous comprenez que moi, je peux pas répondre de ce que le syndic va faire.
Non.
Mais vous comprenez qu'on s'en va dans un contexte où on va s'assurer qu'il n'y a pas une pratique auprès d'une clientèle. Là.
C'est parce que là, vous me parlez juste... Est-ce qu'il va voir des patients ou pas?
Bien, ça va dépendre. Écoutez, la réponse...
Parce que là, vous me répondez vaguement. Vous me dites, on va s'assurer qu'il ne voit pas une clientèle, il peut s'en voir un autre. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que Étienne Lavoie, s'il sort de prison, il va avoir légalement le droit de rencontrer des clients?
Bien, la réponse, c'est vraisemblablement non.
Okay.
Et il faut bien sûr laisser le syndic faire son travail.
Oui.
C'est-à-dire que le système professionnel est fait de façon telle qu'il y a une procédure qui va être mise rapidement en place. C'est-à-dire que c'est en urgence dans ce temps-là là, que le syndic agit. C'est en urgence qu'il va devant le conseil de discipline justement pour demander que les moyens soient mis en place. Puis le syndic va faire le nécessaire. C'est évident, M. Arcan.
OK. Puis allez-vous le traquer pour savoir s'il pratique illégalement une fois que vous le suspendez?
Ben honnêtement, on peut pas faire le travail de la police. Je pense que l'ordre professionnel a pas les moyens de traquer un individu. Tu sais, on a les moyens de l'empêcher d'exercer, ça c'est clair. Du reste, ben c'est plus un travail policier qu'un travail d'encadrement professionnel. Là. Okay. On est dans un autre registre.
En terminant, puis je vous demande pas de vous substituer au syndic, là, s'il est reconnu coupable d'un chef, deux chefs, 14 chefs d'accusation, puis qui est condamné à la prison, puis comme on sait qu'au Québec, les peines sont assez mineures, pensez-vous que ce monsieur Lavoie-là, toujours s'il est condamné, devrait perdre son droit de pratique à tout jamais?
Ben écoutez, là, vous me demandez de me substituer au conseil de discipline. Puis le conseil de discipline, c'est un tribunal indépendant. Alors, tu sais, il faut que le syndic, comme dans n'importe quel système de justice, le système professionnel échappe pas à ça. Le syndic, il va aller faire sa preuve, il va aller devant tribunal.
Je comprends tout ça. Moi, je parle à la présidente de l'Ordre. Est-ce que c'est le genre de psy qui devrait être barré si jamais il est reconnu coupable?
Ben écoutez, c'est suffisamment grave, effectivement, pour qu'il y ait la sanction la plus grave.
OK.
Donc, ça, c'est certain.
Merci beaucoup.
Maintenant, je voudrais... En conclusion, là, je voudrais quand même mentionner que c'est tout à fait inacceptable et déplorable, mais c'est quand même des cas rares. Quand on parle des psychologues qui sont un peu crackpotes, là, je voudrais juste vous dire, parce que ce que vous avez mentionné, c'est sur le nombre de psychologues qu'on a au Québec, faut quand même comprendre que c'est un cas isolé.
Mais c'est toujours des cas isolés. Le problème, c'est qu'on a vu avec le Collège des médecins que jusqu'à il y a quelques années, il y avait une tolérance, une patience face à des médecins abuseurs. Et l'argument qui était donné, c'est oui, mais on n'est pas pour priver la population quand même de quelqu'un, puis de priver les patients d'un médecin compétent parce qu'il aurait abusé d'une patiente ou deux, puis on va l'encadrer, puis on va superviser. C'est juste que des fois, on a l'impression que les ordres professionnels qui, par définition, protègent le public, sont-tu un peu corporatistes? Faut-tu leur rappeler de temps en temps que c'est le public qui protège? Je comprends que les psychologues ne sont pas tous dangereux. C'est quand il en arrive un dangereux, là, comment on le gère? C'est un peu ça le sens des questions ce matin.
Je comprends très bien, mais je pense qu'il faut quand même se rappeler que la mission des ordres, c'est de protéger le public. Puis ce matin, au moment où on se parle, n'importe quel professionnel abuseur, là, ben la règle, c'est qu'il va avoir une limitation de sa pratique pendant 5 ans. Fait que, tu sais, je pense que le système professionnel fait le nécessaire aussi là pour que les sanctions soient à la mesure des comportements qu'on veut voir disparaître.
Merci beaucoup, Mme Gros.
Avec plaisir.
Au revoir, Dr. Christine Gros, qui est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.